VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Dakar, 13h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Sénégal, le tribunal spécial africain ayant jugé à Dakar l'ex-président tchadien Hissène Habré a confirmé aujourd'hui en appel sa condamnation à la prison à vie prononcée en 2016 pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Décision communiquée par le magistrat malien Wafi Ougadey en l'absence de l'accusé. L'ex-président Habré a en revanche été acquitté de l'accusation de viol, une information partielle qui ne change pas le verdict, selon le juge Ougadey. Au Burkina Faso, le procès des 34 ministres du dernier gouvernement du président burkinabé Blaise Compaoré pour leur implication présumée dans la répression de l'insurrection populaire d'octobre 2014 qui a conduit à la chute du régime Compaoré, prévu à partir de ce jeudi, à Ouagadougou a finalement été reporté au 4 mai. L'ex-chef de l'État est cité à comparaître, non pas en tant que président, mais comme ministre de la Défense, portefeuille sur lequel il gardait la haute main. En exil à Abidjan depuis son renversement après 27 ans de pouvoir, Blaise Compaoré n'était pas dans le box des accusés aujourd'hui. Mais le général Gilbert Diendéré, auteur du putsch raté de 2015 et incarcéré depuis, était présent dans la salle d'audience de la Haute Cour de justice à Ouagadougou en tant que témoin. Au Mali, 3 800 000 personnes sont menacées par l'insécurité alimentaire. C'est ce qui ressort d'un point de presse du PAM, le Programme alimentaire mondial. Le point avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
De 2016 à 2017, l'insécurité alimentaire s'est aggravée au Mali. Parmi les 16 pays de l'Afrique de l'Ouest concernés par le cadre harmonisé du CILS, l'insécurité alimentaire a reculé partout sauf au Mali. Cécilia Abs, responsable à la communication et management du PAM.
Les résultats pour le Mali sont assez préoccupants puisque l'insécurité alimentaire sera pire pour la période de soudure que celle de l'an dernier pour le Mali. Nous aurons plus de 3,8 millions de personnes qui sont considérées comme en insécurité. Sécurité alimentaire, dont près de 601 000 personnes qui seront en situation de crise et d'urgence alimentaire, c'est 800 000 personnes de plus que l'an dernier au Mali, à la même période.
C'est pour cela que le PAM est préoccupé à trouver une solution aux côtés des autres partenaires humanitaires qui appuient le gouvernement malien. Pour ce faire, le programme alimentaire a besoin de 34,2 millions de dollars américains. 21 millions sont déjà acquis, soit 61% des besoins. Il existe donc un déficit de financement de l'ordre de 13,2 millions de francs CFA de dollars US. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En RDC, signature aujourd'hui de l'arrangement particulier de l'accord du 31 décembre, les présidents des deux chambres du Parlement ont convoqué les partis au dialogue à cette cérémonie, mais la frange radicale du rassemblement d'opposition boude. Les détails avec Eddie Sango.
L'aile du rassemblement dirigée par Félix Tshisekedi s'est dit non concernée par cette cérémonie et sollicite de rencontrer le président Joseph Kabila. Elle avait pourtant boycotté les consultations que M. Kabila avait tenues sur recommandation des évêques début avril avant la nomination du Premier ministre. Toutes les institutions sont caduques car les élections n'ont pas été organisées. Les présidents de deux chambres du Parlement n'ont pas mandat pour convoquer une réunion des signatures de l'accord, a indiqué à VOA Afrique Martin Fayoulou, membre de cette frange du rassemblement Félix Tshisekedi. Aucune invitation formelle ne leur a été adressée, précise-t-il. La CENCO, conférence des évêques catholiques, elle, dit ne pas avoir reçu d'invitation non plus. Mais elle avait, deux jours plus tôt, qualifié d'entorse à l'accord la nomination de Bruno Tshibala comme Premier ministre. La majorité présidentielle estime que les prélats ont terminé leur travail. Elle laisse tout de même la porte ouverte pour la poursuite des discussions avec les durs de l'opposition.
Tchad, Amnesty International appelle à la libération des trois activistes tchadiens placés sous mandat de dépôt par le procureur mercredi. Nadjo Kaina et Bertrand Solongandje, membres de la campagne Tournons la page et aussi du mouvement citoyen IINA, ont été arrêtés respectivement le 6 et le 15 avril. Ils sont accusés de troubles à l'ordre public et d'incitation à la révolte, a fait savoir le ministre tchadien de la Justice, Amat Mahamat Hassan. Le troisième militant, Dibgam Nayel Nelly Versinis, président du collectif tchadien contre la vie chère, est détenu pour usurpation de titres et escroquerie. Il avait été interpellé le 12 avril. Plus de détails avec Balkissa Idesido d'Amnesty International.
Dans un état de droit, un état où il y a la démocratie, tout le monde a le droit de s'exprimer. Et critiquer un gouvernement n'est pas une violation, ce n'est pas un crime. Tout individu a le droit de s'exprimer quant à la manière dont le pays est dirigé, quant aux droits humains, quant à la malgouvernance. Il s'agit juste de l'exercice du droit à la liberté d'expression. Et ça, c'est un droit fondamental auquel tout individu a le droit. Nous pensons que ces trois prisonniers d'opinion n'auraient jamais dû être arrêtés, déjà en premier lieu, avant même de parler de procès. Et les autorités tchadiennes doivent les libérer immédiatement et sans aucune condition, ce qui n'est pas normal.
Balkissa Idesido d'Amnesty International, jointe à Dakar.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Tchad toujours, c'est à Bagassola, dans la région du lac, que le groupe djihadiste nigérian Boko Haram a opéré sa première incursion en territoire tchadien. C'était en octobre 2015. Nicolas Pinault, l'envoyé spécial de VOA Afrique au Tchad, s'est rendu dans la ville. Voici son reportage.
Des arbres à la cime calcinée, des branches arrachées, le marché de Bagassola porte encore les stigmates de l'attaque du 10 octobre 2015. C'est là qu'une kamikaze a déclenché sa bombe au milieu des passants. Abdourahmane, un commerçant, se souvient.
Le jour de l'attaque, après l'explosion, c'était tout noir avec la fumée partout et on ne voyait rien. C'est après que j'ai vu qu'il y avait un cadavre juste devant moi. J'ai vite remballé et je suis rentré chez moi.
Ce jour-là, d'autres explosions suivent dans le quartier périphérique de Kousseri. 13 membres d'une même famille périssent. Leur tort, avoir laissé rentrer chez eux une kamikaze qui demandait de l'eau. Elle s'est faite exploser en entrant dans la maison. Boko Haram est désormais un problème tchadien. Cette première attaque sur le territoire national fait 43 morts et marque les esprits, comme l'explique Mahamat Jida, le secrétaire général de la mairie de Bagassola.
On entendait de ce phénomène, mais ces Boko Haram ne sont pas venus vers nous ici à Bagassola. Vraiment, ça nous a créé une grande tristesse, c'est-à-dire ça a eu beaucoup de troubles. Toute la population ont été troublée, ils ne savent où aller. Il y a une dépendance totale de la ville.
Un an et demi après ces attentats, la situation sécuritaire s'est beaucoup améliorée, même si les motos, mode de transport préféré des djihadistes, ne peuvent circuler après 18h à Bagassola. Dinoya Swapebe est le préfet du département de Kaya, région du lac.
En tant que préfet du département, mais je peux vous confirmer qu'aujourd'hui nous sommes à 0 mètre carré occupé par Boko Haram sur le territoire du département de Kaya. La preuve est qu'aujourd'hui nos forces de défense et de sécurité sont sur le sol nigérian à la poursuite de Boko Haram. Le mouvement des motos, ça se contrôle au niveau de la ville. À Bagassola, 18h, vous êtes 18h, vous ne sortez plus avec votre moto, vous n'entrez plus avec votre moto.
Si Boko Haram périt par les armes, nombre de vies bouleversées par les djihadistes mettront des années, voire plus, pour se reconstruire. Avec ses béquilles, Tchelou Alhadj tente de se déplacer normalement. Cette petite fille de 9 ans a perdu son pied gauche dans une attaque kamikaze. Sa mère, Yangou Abdou, se souvient de ce jour d'octobre 2015 où son destin a basculé.
Après l'explosion au marché de Bagassola, ma fille a couru et est revenue vers la maison à Kousseri. Mais c'est là qu'il y a eu une autre explosion et qu'elle a perdu son pied. Aujourd'hui, elle ne peut plus aller en brousse ou aller au marché. Elle doit rester à la maison. C'est difficile.
Environ 100 000 réfugiés et déplacés sont présents autour du lac. Ils espèrent pouvoir rentrer chez eux. Depuis Bagassola au Tchad, Nicolas Pinault, VOA Afrique.
Pour terminer, le projet de réforme fiscale du président Donald Trump ici aux États-Unis, le chef de l'exécutif américain assure que les coupes d'impôts qu'il espère faire adopter d'ici la fin de l'année se financeront d'elles-mêmes. Morgan Guiriec.
Et l'administration Trump assure que les réductions d'impôts ne coûteront rien au budget de l'État. Je crois fermement au Dynamic Scoring, ou comptabilité dynamique en français, affirme le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin. Selon ce concept, les coupes d'impôts, si elles sont suffisamment importantes, vont nourrir la croissance, qui elle-même va générer plus de revenus et donc davantage de recettes pour l'État. L'objectif du code fiscal tel que l'envisage l'administration Trump est de mener un entrepreneur à embaucher ou investir davantage et un consommateur à dépenser plus. Mais de nombreux experts doutent de l'ampleur de cet impact. Il n'y a jamais eu une seule analyse crédible suggérant que les réductions d'impôts vont se financer elles-mêmes, a assuré à l'AFP Douglas Holtz Eking, président du Centre d'études économiques American Action Forum.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.